pouvez vous asseoir. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Bien, on est ici le jeudi matin parce qu'on a un but. Amen. Un but le jeudi matin, c'est d'amener la guérison. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ faisait quand il était sur la terre. La parole de Dieu nous dit dans Actes 10, 38, que comment Dieu le oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Merci Seigneur que Jésus y avait un but. Faire du bien et guérir le monde. Amen. Merci Seigneur. Et il n'a pas changé lui non plus. Amen. Il a tout accompli à la croix. Il est monté au ciel. Il est allé s'asseoir à la droite du Père Tout-Puissant. Amen. Et le Saint-Esprit est aujourd'hui ici avec nous pour confirmer cette parole-là qui s'est accomplie. Amen. Oh, merci Seigneur. Pour l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Jésus a dit lui-même, « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas tout seul. » Amen. Et puis il dit, « Je vais prier le Père, il va vous envoyer un autre comme moi. » Paraclé dans le grec, qui veut dire un autre pareil comme moi. Amen. Puis il dit, « Il va vous annoncer les choses, il va faire les choses. » Amen. Puis on sait très bien que l'Esprit Saint a un grand ministère. Amen. Parmi nous aujourd'hui, amen, gloire à Dieu, et il amène en manifestation cette parole-là qui est Jésus, qui s'est accomplie parfaitement. Amen, merci Seigneur. On a commencé à parler depuis quelques semaines des choses qui empêchent bien des fois les gens, les chrétiens, de recevoir leur guérison. Amen. Vous allez dire, ah, comme ça, il y a des empêchements. C'est nous autres qui les font, c'est pas Dieu. Dieu, il n'y a jamais en Jésus-Christ, parce que Jésus disait toujours, les choses que je fais, c'est le Père qui fait les choses, amen, en moi, amen, au travers de moi, je ne fais rien de moi-même, c'est le Père en moi qui fait les choses. Alors vraiment, non, Jésus, quand il était sur la terre, jamais. Lisez Marc, Matthieu, Luc, Jean, vous allez voir dans les quatre évangiles, ces quatre apôtres qui ont parlé de qu'est-ce qu'ils ont vu, de qu'est-ce qu'ils ont participé, de qu'est-ce qu'ils ont entendu, et jamais, jamais Jésus a dit « Non, je ne te guéris pas ». Jamais. Il n'a jamais fait ça. Amen. Au contraire. Il guérissait tous ceux, la parole de Dieu dit tous. Si tous, on sait que ça veut dire. L'hiver, on tous. Non, non. Tous, c'est tous, amen. Tous, c'est tout le monde. Tous, avec un S. Ça veut dire que tout, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen, merci Seigneur. Alors vraiment, on prêche le jeudi matin parce qu'on veut rentrer dans la connaissance. Parce que la première chose qu'on a dit qui empêche les gens de recevoir, c'est l'ignorance. Parce qu'ils ne savent pas. Quand tu ne sais pas quelque chose, tu ne peux pas y participer. Amen. Ça, on en a parlé. Voyez-vous, si on va à Actes 19, je veux juste donner un exemple ici de gens qui ne savaient pas quelque chose. Mais quand ils l'ont su, ils ont participé. Amen. Et ici, ça s'appelle à propos du baptême du Saint-Esprit. Dans Actes 19, je vais commencer à lire au verset 1, ça dit, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, l'apôtre Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Des disciples, c'est des gens qui croyaient en Jésus. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Alors, c'est des gens qui ont cru, sont sauvés. Ils leur répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Donc, ça voulait dire qu'ils étaient dans l'ignorance. Amen. Mais pourtant, c'est des gens qui ont cru. Ils ont cru au Seigneur Jésus, mais ils étaient dans l'ignorance concernant le Saint-Esprit. Ils ont dit, on n'a même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Alors, on peut voir ici un exemple, juste un exemple de la parole de Dieu, de gens qui étaient dans l'ignorance concernant le baptême du Saint-Esprit. Alors, vu qu'ils étaient dans l'ignorance, est-ce qu'ils pouvaient prendre part à ça? Non! Mais quand est-ce ont-ils été capables de prendre part à ça? Quand Paul nous a dit qu'il existait, qu'il y avait un Saint-Esprit. Eh bien, c'est la même chose avec la guérison. Comment les gens peuvent-ils s'approcher du trône de Dieu pour recevoir une chose qu'ils ne sont même pas au courant qui existe? Amen. Premièrement, les gens, oui, il y a des gens qui vont croire au miracle. Amen. Il y a des gens qui vont dire, ben les miracles sont, on sait que ça existe. Mais pour eux autres, un miracle, c'est un peu comme quand tu vas au bingo. Yep. Tu risques de gagner ou de perdre. Si tu es chanceux, tu vas gagner. Pour eux autres, un miracle, c'est, tu as été chanceux, tu as eu un miracle dans ta vie, j'aimerais bien ça, avoir la même chose. Mais la guérison, j'ai des petites nouvelles pour vous autres, ce n'est pas un miracle. Jésus, quand il était dans sa propre patrie, amen, si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans Jean 6, mais peut-être pas, amen. En tout cas, Jésus, quand il était dans sa propre patrie, la parole de Dieu dit qu'il y avait des gens incrédules qui sont arrivés et puis n'ont pas cru. Ils ne croyaient pas, parce que c'était des gens qui avaient connu Jésus quand ils étaient jeunes. Et puis, ne cherchez pas dans vos Bibles, c'est correct, je sais que vous savez tout ça, ces Écritures-là. Mais c'est des gens qui ne croyaient pas que Jésus était vraiment le Fils de Dieu puis que par lui pouvait s'accomplir tant de choses. Ça dit que Jésus n'a pas été capable de faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains aux malades et il les a guéris. Amen. Fait qu'il n'a pas dit... Amen, Pasteur Brian, vous l'avez trouvé, c'est ça. Ah, oh, c'était dans Marc, OK. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ça veut dire qu'il dit que ce que Jésus, ce que la parole de Dieu nous dit vraiment, c'est que il compare pas un miracle avec une guérison. Un miracle, c'est un miracle. Un miracle, c'est quand tu marches sur l'eau. Un miracle, c'est quand tu as quelques pains et quelques poissons, puis tu as une multitude devant toi, et puis Dieu fait la multiplication des pains. Vous regarderez. Ça, c'est des miracles. C'est contre la nature. Amen. Une guérison, c'est pas contre la nature. Combien de vous avez déjà tombé quand vous étiez jeune, puis vous vous êtes éraflé un genou, puis là, il y avait des grosses gales. Vous souvenez-vous de ça? Une grosse gale. Avez-vous encore votre gale?
Non.
Votre éraflure? Non. Pourquoi? Parce que c'est normal que le corps humain est supposé, il a été créé comme ça, qu'il va se régénérer puis reformer une peau. Jésus, il dit, il n'a pas pu faire des miracles extraordinaires devant eux. Il a juste fait, qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Guérir des malades.
Amen.
Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, la parole de Dieu dit que, à cause de l'ignorance, à cause qu'on ne sait pas que Dieu veut nous guérir, eh bien, bien des fois, les gens demeurent malades. Ils ont de la misère à comprendre, à faire la différence entre un miracle et une guérison. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a vu que ça, c'est une des causes pourquoi les gens sont malades. Ils ne savent pas. Mais c'est pour ça que le jeudi matin, on enseigne sur la guérison, parce qu'on veut que les gens sachent qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et on en est rendu à peu près à 36 ou 37 enseignements sur la guérison. Alors, il y a de quoi dire concernant la guérison. Aussi, on a dit que les gens, des fois, c'est parce qu'ils sont faibles dans la foi. Il y avait un homme comme ça qui est arrivé près de Jésus, puis il a dit, « Mon fils, il tombe souvent à terre, puis il fait des crises, et puis il se roule, et puis ça lui arrive depuis qu'il est jeune. » Et puis il a dit, « Si tu peux, » il a dit à Jésus, Jésus a répété ses paroles avec un point d'exclamation, puis il a dit, « Si tu peux, » il a dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Alors l'homme s'est dépêché de dire, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. En voulant dire, peut-être que ça ne durera pas longtemps, parce que je n'ai pas de fondation assez à l'intérieur de moi. Puis là, Jésus a guéri. Amen. Alors, ça peut arriver que les gens sont faibles dans la foi. Amen. Mais merci Seigneur, comme j'ai dit tantôt, ça prend une seconde croire. Moi, j'ai déjà prié pour des gens dans leurs yeux, j'ai vu qu'à entendre la parole, à un moment donné, ça a fait un déclic. Et je le voyais que maintenant, ils commençaient à comprendre ce que la parole de Dieu dit, puis à le recevoir. À ce moment-là, j'ai prié. Moi, vous dire de quoi ça prend une seconde à Dieu, zapper un miracle.
Amen.
Amen. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec cet homme-là. Alors, des fois, les gens, c'est parce qu'ils manquent de nourrir leur foi. La parole de Dieu dit dans Romains 10, 17, « Or, la foi vient d'entendre la parole de Dieu. » Amen. La foi vient d'entendre. Puis le mot « entendre », dans le grec, ça veut dire « entendre et réentendre et réentendre et réentendre ». Pourquoi vous pensez qu'ils font des commerciaux à la télévision? Puis il le répète. Puis des fois, même ça a déjà arrivé, j'ai vu. Ils ont fait un commercial, il a fini, puis ils l'ont recommencé. Le même, là, tout de suite après. Il répète. Pourquoi? Parce qu'à force de l'entendre que des Tylenol, c'est meilleur que des Advil, bien, à un moment donné, tu arrives à la pharmacie, puis devine qu'est-ce que tu achètes. Des Tylenol, tu l'as entendu, c'est le premier mot qui te vient. Là, il n'a pas dit que c'était meilleur. Ils disent... OK. Amen. Mais voyez-vous, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Amen. De toute façon, tout ce que le monde fait dans le monde, il y a juste une place qui tire toutes les choses, même s'ils ne le savent pas, c'est de la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit, la foi vient d'entendre et entendre et entendre et entendre. C'est pour ça qu'il faut le réentendre. Pourquoi? Pour enlever la négativité. Pour qu'à un moment donné, dans ton cœur et dans ta tête, ça fasse un, puis tu dises, peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens, peu importe. La parole de Dieu dit que je suis guéri, point final. Puis à un moment donné, c'est la détermination qu'on a. Amen. Puis on a vu souvent par les semaines passées aussi comment les gens sont allés chercher des guérisons par la détermination. On a parlé dans les semaines passées à propos d'une femme depuis 12 ans qui était malade. Puis elle était déterminée. Elle a dit, moi, je le sais, je vais toucher son vêtement. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Et quand je vais y toucher, je vais être guérie. Puis elle était déterminée. Et c'est la détermination. La foi, c'est d'être déterminée. Quelqu'un qui a la foi, il y en a qui ont la foi juste dans les études. Et puis, ils vont à l'université. J'ai connu un homme aux États-Unis. Il était rendu au-dessus de 40 ans, mais il n'avait jamais arrêté d'aller. Il n'était pas retourné à l'université. Il n'avait jamais arrêté d'y aller. Il dit, moi, c'est apprendre, puis apprendre, puis apprendre, puis apprendre. Amen. Et puis, il y en a qui ont la foi, je ne sais pas, moi, dans toutes sortes de choses autour d'eux autres. Mais nous autres, on peut développer une foi en Dieu. Amen. La parole de Dieu dit que la foi vient d'entendre et entendre et entendre et entendre la parole de Dieu. Amen. Alors, la plupart du temps, quand les gens ne reçoivent pas, c'est parce que leur foi n'est pas encore assez fondée. Amen. Pas encore assez enracinée. On a parlé de ça la semaine passée. On a parlé à propos de la parabole du semeur, puis comment qu'il y a des gens qui n'ont pas encore formé des racines à l'intérieur d'eux assez pour recevoir. Amen. Et bien des fois aussi, c'est parce que les gens n'agissent pas sur la parole de Dieu. Voyez-vous, on va aller à Marc 10. Marc 10, et puis au verset 46. Ça dit, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus eut en sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. » Autrement dit, il ne peut pas le voir. Il est aveugle. Mais il a entendu le monde dire, « Hey, Jésus de Nazareth s'en vient avec une gang. » Avec une foule, Jésus, il a entendu ça. Alors, il n'a pas le choix. Il ne peut pas se lever debout puis se mettre à courir vers Jésus ou dire, je vais aller toucher le bord de son vêtement. Il reste une chose à faire, c'est se mettre à crier. Amen. Alors, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il y en a qui disaient, « Bon, voyons, chut, chut, chut. » Mais vous dire de quoi le monde qui essaye de vous faire taire puis de dire, ben non, va pas là, ben non. Voyons donc, voyons. J'espère que vous allez prendre exemple sur Bartimée. Amen. Mais alors, qu'est-ce que fait Bartimée? Il a crié encore plus fort. Jésus, fils de David! En tout cas, il dit, si je peux pas courir vers lui, il va toujours bien m'entendre. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Alors, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Des fois, les gens vont dire, « Il me semble que c'est assez évident. » Parce que quand il est allé vers Jésus, il devait marcher comme ça, sûrement, ou peut-être en tout cas, avec son bâton. « Amen. » Ça devait être assez évident, mais Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Dieu, il veut qu'on soit précis. Amen. C'est pas juste « Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. » « Que veux-tu que je te fasse? » Il dit, « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » C'est où qu'était sa foi? Où est-ce que Jésus peut dire qu'il a vu que cet homme-là avait la foi? Parce que vraiment, il a juste fait une demande. Où est-ce que Jésus a vu, aussitôt il a recouvert la vue et il suivit Jésus dans le chemin? Où est-ce que Jésus, premièrement, c'est lorsqu'il a crié, premièrement, alors il s'est adressé à la bonne place, amen. La parole de Dieu nous dit que celui qui invoque ou qui crie Jésus à Jésus sera sauvé. Mais le mot « sauvé » veut dire « pris soin, secouru, guéri, délivré, la paix ». Ça comprend tout ça. Amen. Premièrement, quand il a crié à Jésus. Puis deuxièmement, quand les gens ont essayé de le faire taire, il a crié encore plus fort. Ça veut dire qu'il croyait en celui qui venait là. Et puis qui voulait recevoir, deuxièmement. Et la troisième chose, c'est lorsqu'il a jeté son manteau à terre. Parce qu'au verset 49, ça dit, « Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Voyez-vous, s'il avait gardé son manteau, premièrement, il l'aurait démontré tout de suite qu'il était aveugle. Amen. Parce qu'un aveugle avait un manteau d'aveugle dans ce temps-là. C'était un manteau tout déchiré, parce qu'il précise bien, il a jeté son manteau. Les manteaux qu'il portait démontraient qu'ils étaient des aveugles, des mendiants. C'était des manteaux tout brisés, tout rapiécés, parce qu'eux autres, ils mendiaient. Mais la première chose que l'aveugle a faite, c'est « j'aurais pu besoin de ce manteau-là ». Il l'a jeté à terre. Sinon, il serait en allé avec le manteau, puis il aurait été vers Jésus, puis il aurait dit, « Garde, tu vois là, qu'est-ce que je suis? » Amen. Il a jeté son manteau à terre, puis il s'est en allé vers Jésus. Jésus, il a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Dis-le. » Dis-le. Dieu, il s'attend qu'on va parler avec. Amen. Il s'attend qu'on est, assez à l'aise avec lui, de savoir comment il est bon, pour arriver devant lui puis lui parler. Il dit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Alors Jésus dit, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Amen. Merci Seigneur. Jésus, il avait vu la foi. Premièrement, il l'a entendu crier. Premièrement, il a entendu le monde qui, « Hey, Il a crié encore plus fort. Ça l'a arrêté Jésus. Moi, vous dites de quoi? Quand on crie assez fort à Jésus, il arrête. Il arrête. Puis il prend le temps. Jésus a toujours eu le temps. Il est le même hier. Il ne change pas. Il va toujours avoir le temps pour nous autres. Amen. On sert un bon Dieu. Amen. Alors, vraiment, il a agi sur sa foi. Alors, bien des fois, il y a des gens qui ne reçoivent pas parce qu'ils n'agissent pas sur la foi à l'intérieur d'eux. Amen. Ils n'agissent pas sur la foi. J'ai prié pour des gens, des fois, je disais, là, le Seigneur va faire une différence ce matin. Je disais, ça fait quelques fois que tu avances en avant, tu demandes toujours la même chose. Ce matin, on va prier pour toi. Puis je te demande de croire que tu as reçu un matin. Je te demande juste d'agir par la foi, croire que tu as reçu ce matin. OK? Fait que là, je dis à la personne, je prie sur toi et tu reçois. C'est juste ça que Dieu te demande de faire, de recevoir ce qu'il a pour toi. J'avais même pas fini de prier encore, la personne me regardait et elle disait, « En tout cas, ça fait longtemps que j'ai ça, puis je te dis que c'est pas un cadeau de se promener avec ça. » J'étais là, « Oh mon Dieu Seigneur, on va recommencer. Ouh, on recule, on recommence. » Parce que vraiment, la personne, elle n'agit pas sur qu'est-ce qu'elle croit. C'est comme si pour elle, il n'y a rien qui s'est passé. Elle recontinue de parler comme avant. La seule chose que Dieu demande de faire, c'est agir sur qu'est-ce qu'on croit. Puis ça veut pas dire que la personne qui est diabétique, elle arrive chez eux, prend tous ses médicaments, rouvre la poubelle, puis jette ça là, vide les affaires dans le... est-ce qu'on prie tout de suite? Hein, Monique? Oui, OK. Excusez-moi, là, on va... C'est parce que je sais qu'elle se doit de partir. On va juste prier pour son fils. Amen. Parce qu'on va... Elle va mettre un linge sur son fils. Puis on va croire vraiment que Dieu va faire une guérison rapide. Amen. On a prié pour lui. Mais maintenant, on va juste demander que l'onction... Dans la guérison coule dans tout son corps. Amen. Alors, Père éternel, on a déjà prié pour lui. On croit dans notre cœur, Père éternel, que la guérison prend place, Seigneur. Et lorsque ce linge sera appliqué, Seigneur, l'onction qui détruit les liens, Seigneur, va aller réparer ce que l'ennemi avait essayé de détruire dans son corps. Alors que l'onction coule dans le nom de Jésus dans tout son corps. Amen. 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 Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, vraiment, des fois, quand on veut agir par la foi, ça, comme j'ai dit, ça ne veut pas nécessairement dire on garoche toute la poubelle tout de suite comme ça. Il y a des gens qui ont fait ça, puis deux jours après, ils ont été obligés d'aller chercher dans la poubelle ce qu'ils avaient jeté. Ça, c'est pas mieux, parce qu'ils l'ont fait, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il fallait que tu agisses par la foi. Alors, ils ont dit, bien, ça a l'air, il faut que j'agisse par la foi. Non, c'est pas après. Amen. L'aveugle, il l'a jeté à terre avant même d'être guéri. Il a montré sa foi. Amen. Alors, des fois, bien des fois, quand on veut démontrer notre foi, on se prépare et on fait juste dire, « Seigneur, l'imposition des mains va être faite. Dans le nom de Jésus, moi, je crois d'avance que je suis guéri. Alors, je commence déjà à te remercier d'avance, Seigneur, que la guérison est là. Dans le nom de Jésus. Alors, pour moi, Seigneur, je sais que je suis guéri. Alors, je jette le manteau, je jette n'importe quoi qui me tenait lié dans le nom de Jésus, dans ma tête, quoi que ce soit. Puis moi, je marche vers toi, puis je te remercie. Juste de commencer à le remercier d'avance. Déjà là, c'est une preuve qu'on croit qu'on a reçu. Amen. C'est d'agir par la foi. Amen. Alléluia. Alors, et la parole de Dieu nous dit aussi dans Jude 20, qu'on peut s'édifier sur notre très sainte foi. Amen. Ça dit, priant par le Saint-Esprit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Ça veut dire que des fois, notre foi est nouvelle dans un certain domaine. Mais si on prie par le Saint-Esprit, on va s'édifier là-dessus pareil. Amen. C'est un moyen, c'est une arme que Dieu nous a donnée pour bâtir, édifier notre foi spirituellement. Amen. Maintenant, on va regarder à la dernière raison de ces trois raisons-là que je voulais parler, qui amène les chrétiens, bien des fois, j'ai bien dit les chrétiens, à avoir de la difficulté à recevoir la guérison. puis c'est à cause du péché dans leur vie. Je vais vous dire ce que le péché fait. Ça ne veut pas dire, là, oh, je suis malade. J'ai pas dit, tu es malade à cause que tu as un péché. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, les gens ont de la misère à recevoir leur guérison, bien des fois, parce qu'ils traînent un péché dans leur vie. Et qu'est-ce que le péché va faire? Il va te condamner. Je parle aux chrétiens. Il va te condamner dans ton cœur. Combien de vous, si vous avez fait quelque chose de pas correct à un moment donné, vous avez la condamnation qui vous a suivi pendant un bout? Bien, si tu te condamnes, tu n'auras pas de l'assurance devant Dieu pour recevoir de lui. Alors, on va aller à 1 Jean 3. Là, on parle de recevoir de Dieu. Amen. Je parle pas, là, « Oh, cette personne-là est malade, c'est sûrement parce qu'elle a du péché dans sa vie. » C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que des chrétiens, des gens qui aiment Dieu, des fois ont de la misère à recevoir parce qu'il y a quelque chose qui les condamne dans leur cœur. Et alors, à cause de cela, ils ne vont pas avec assurance devant Dieu. Voyez-vous, dans 1 Jean 3, au verset 20, on va commencer au verset 20, ça dit, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Combien de vous savez que souvent on va se condamner, mais merci Seigneur que Dieu, lui, est bien plus grand que ça, puis il ne nous condamne pas. Ça, c'est merveilleux. Amen. « Et il connaît toutes choses. » Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vrai ou faux? Hein, quand notre cœur ne nous condamne pas, et c'est donc facile d'aller à Dieu et de dire, « Merci Seigneur, Dieu il est bon! » Amen. Mais quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que notre cœur ne nous condamne pas. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Alors vraiment, ça dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, comme j'ai dit, merci Seigneur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Voyez-vous, moi je connais un homme de Dieu, ok? Il est décédé maintenant, mais je connaissais cet homme-là. C'était un homme qui était utilisé non seulement pour prêcher la parole de Dieu, mais aussi il coulait beaucoup avec les dons de l'Esprit, lui et sa femme. Lui, des fois, il y avait les langues, sa femme avait l'interprétation des langues, et puis dans toute leur vie de ministère, ils étaient vraiment ce qu'ils disaient, le monde disait « wow ». Hey, ça tombe pile, c'est exactement ça. Il parlait à un, parlait à l'autre, il coulait avec les choses de Dieu. Mais là, je vous parle d'un homme de Dieu qui connaît Dieu, puis qui marche avec Dieu, puis qui a un ministère, OK? Et un jour, cet homme-là s'est laissé entraîner dans l'adultère à un tel point qu'un jour, le mari de la femme à laquelle il était intéressé, il s'est servi d'un don de l'Esprit pour prophétiser sur l'homme puis lui dire, « Oui, c'est vrai, tu es appelé en Afrique pour que l'homme parte. » Puis l'homme, il est parti pendant un mois ou deux pendant que lui s'est intéressé à sa femme. C'est grave. Amen. Mais vous savez, quand on rouvre une porte au diable, c'est inimaginable les conneries qu'il peut arriver à faire aux gens. C'est grave. Pas longtemps après, un cancer a commencé dans son corps. Écoutez, ce matin, là, promenez-vous pas de même, là, c'est pas ça le but, OK? Un cancer a commencé dans son corps. Ça ne veut pas dire que parce que si un cancer commence dans notre corps, c'est parce que, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Ça n'a pas rapport. La maladie est venue sur la terre parce qu'au début des temps, Adam et Ève ont péché puis ont laissé rentrer le malin. Point. C'est le péché qui a amené tout ça. Le péché, pas nécessairement le tien. OK? Là, on parle de recevoir de Dieu. Qu'est-ce que des fois les gens, ça leur empêche? Un jour, cet homme-là, il s'est repenti. Combien de vous savez que la parole de Dieu dit dans 1 Jean 1:9 que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner? Amen?
Amen.
Amen. Quels que soient les péchés, il est pardonné. Amen? Il est pardonné. Alors, cet homme-là a avoué son péché, il a demandé pardon devant Dieu, il a demandé pardon à ce couple-là pour qu'est-ce qu'il avait fait, il a demandé pardon à sa femme, il a demandé pardon à Dieu, il a tout fait. Après ça, le cancer est venu. Il y a des grands hommes de Dieu qui ont prié pour lui. On était dans des réunions, hein? Et un grand homme de Dieu, il a dit, oui, sûrement la guérison est là. Puis je le crois que la guérison était dans son corps. Mais il y a juste une chose. Il ne s'est jamais pardonné ce qu'il avait fait. Et il n'a pas été capable de recevoir parce que son cœur le condamnait continuellement. Dieu lui avait pardonné, sa femme lui avait pardonné, les ministres de Dieu... Lorsqu'il a confessé ces choses, parce qu'il était un grand homme de Dieu, là. Puis il est encore. Puis j'ai des petites nouvelles pour vous autres, il est au ciel. Et tout le monde lui avait pardonné, mais lui, il ne s'est jamais pardonné. Si ton cœur à toi te condamne, tu n'as pas d'assurance. Même si Dieu il est plus grand que ça. Alors, qu'est-ce qui empêche bien des fois des chrétiens de recevoir? C'est parce qu'il y a quelque chose dans leur vie qu'ils ne se sont pas pardonnés. Ça les empêche de recevoir. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. La parole de Dieu nous dit que quand on confesse ça à Dieu, il est juste et fidèle de nous pardonner. S'il nous pardonne... Il faut se pardonner, nous autres aussi. Il faut se pardonner. Amen. Combien de vous savez comment on peut être dur avec nous-mêmes? Amen. Puis des fois, ça nous empêche. Juste ça. Pourquoi ça nous empêche? Pas parce que Dieu dit, « Ah, tu ne te pardonnes pas, je t'empêche. » Non, non, ce n'est pas lui qui nous empêche. C'est que c'est nous autres qu'on n'a plus d'assurance. Ça dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Donc, ça veut dire, si ton cœur te condamne, tu n'as plus d'assurance devant Dieu. Puis, on a la preuve avec la parole de Dieu, avec Pierre, l'apôtre Pierre. On va aller dans Luc 22. Là, je parle de choses... Hey, on n'a même pas fait ça, nous autres, renier Jésus ou se servir d'un don de l'Esprit pour faire le mal. Puis on sait que Dieu pardonne. Fait que même, on a de l'espoir en masse. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Luc 22, si je commence à lire au verset 31, Jésus il a parlé à l'apôtre Pierre avant que Jésus meure sur la croix. Puis le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, Jésus leur avait annoncé qu'il allait mourir. Mais Jésus dit, « Moi, je le sais que le diable, il va s'acharner sur vous autres. Il va essayer de vous défaire tant qu'il peut. » Comment il fait ça? La condamnation. Amen. Il dit, « Mais j'ai prié. » Merci Seigneur que Jésus, il sait comment prier. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu de ta condamnation, là, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison, puis même jusqu'à la mort. Il y a des fois où on se sent capable. Hein? Seigneur, tu peux me demander ce que tu veux. Puis au moment où il te demande ce qu'il veut, tu dis, Seigneur. C'est beaucoup, me semble. Alors, il dit, « Seigneur, non, moi, je suis prêt à aller même en prison jusqu'à la mort, s'il faut. » Et Jésus, qui sait tout, Jésus, il a dit, « Pierre, Pierre, Je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu me reniais trois fois de me connaître. OK? Alors, Jésus qui sait tout, il sait d'avance, il dit, je sais ce qui va arriver. Je sais que ton cœur est bien disposé, mais la chair est faible. Quand tu vas voir ce qui va m'arriver, tu vas voir que tu vas avoir de la misère à rester ferme comme tu es là aujourd'hui. Mais dis-moi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, puis quand tu vas être revenu de ta condamnation, c'est ce qu'il veut dire, parce qu'on va lire d'autres Écritures. Il dit, affermis tes frères, puis continue. OK? Alors, si je vais après ça au verset 55, ça dit, on va commencer au verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit, « Cet homme était aussi avec lui, mais il le nia disant, « Femme, je ne le connais pas. » Mais après, peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu étais aussi avec ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je ne suis pas celui-là. » Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Hey, ça doit être terrible. Oh, oh, ça doit être terrible. Tu dois avoir envie de dire, oh my. Moi, ça m'est déjà arrivé de penser que j'étais capable de faire quelque chose. Et puis, je me sentais forte, puis j'ai vu que de moi-même, ça dit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Combien de vous savez que Pierre avait de la condamnation sur le dos? Amen. On va aller à Jean 21. Là, Jésus est mort. Il est ressuscité. Et puis, on va regarder ce que Pierre fait, parce que maintenant, son cœur le condamne. Dans Jean 21, verset 1, ça dit, « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. » Alors, les disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et lui dire, « Nous allons aussi avec toi. » Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Voyez-vous, Pierre, quand il a vu, pourtant Jésus dit, « J'ai prié pour toi. » Puis quand tu vas être revenu, après que Satan va t'avoir criblé un peu, et il dit, « Affermis tes frères, puis... » Continue à faire qu'est-ce que tu dois faire. Mais c'est pas ça qu'il fait. Pourquoi? Parce que son cœur le condamne. Il est retourné à la pêche, exactement le métier qu'il faisait avant de connaître Jésus. Parce que son cœur le condamne. Amen. Alors, ils n'ont pas rien pris cette nuit-là. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Et il dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Vous souvenez-vous que ça leur était arrivé une fois quand Jésus avait pris la barque pour prêcher. Jésus avait monté dans la barque, puis il avait prêché, puis il avait dit « Avancez en pleine eau », puis ils ont dit « Oh Seigneur, on n'a rien pris de la nuit ». Il dit « Jetez vos filets », et ils ont jeté le filet, puis il y a eu une grande quantité de poissons. Mais là, il se passe encore la même chose. Alors, le disciple que Jésus aimait, ça c'est Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu le miracle. Il a dit, « Il n'y a rien qu'un qui peut nous dire de faire ça, et puis que ça va marcher. Il y a juste Jésus. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre et virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain, Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, et 153 grands poissons étaient dans le filet. Et quoi qu'il y ait eu tant, le filet ne se brisait pas, ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun disciple n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur en donna, et il prit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que m'aiment ceux-ci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Pas « paix » avec un « X ». « Paix », « P-A-I-E », ça veut dire « Va faire ce que tu es supposé de faire. Va paître. Va être un bon berger. » Voyez-vous, Jésus le savait que Pierre aimait Dieu, mais il le savait qu'il ne faisait pas le plan parce qu'il se condamnait. C'est pour ça qu'il disait, « Pierre, tu m'aimes-tu? » Pierre dit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Ben, il dit, « Va faire, qu'est-ce que tu as à faire? » Ôte la condamnation de sur tes épaules. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Va paître mes brebis. » Et il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Jésus dit rien qu'une fois, là, il va se condamner encore. Il lui a redit une deuxième fois, il dit juste au coq qu'il se condamne encore, il lui a demandé une troisième fois, exactement comme lui l'avait renié trois fois. Trois fois, il lui a dit, « Tu m'aimes-tu? » Pierre fut irrité de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu? » Il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Bien, Jésus lui dit, « Va paître mes brebis. Arrête de te promener sous la condamnation. » Il dit, « en vérité, quand je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. » Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Là, il y en a des gens qui prennent encore ce verset-là puis ils disent, « Tu vois-tu, des fois on glorifie Dieu en mourant. » Il parle ici parce qu'il savait que Pierre serait torturé. C'est un martyr. Il a été torturé dans sa mort. Puis il dit, même dans ta mort, tu ne me renieras plus. Tu n'auras plus peur maintenant. Quand tu disais, quand même j'irai à la mort ou en prison, Seigneur, je vais te tuer partout. Il dit, quand tu vas être vieux, même dans ta mort maintenant, tu vas me glorifier. Amen. Parce que je connais ton cœur, je sais que tu m'aimes. Je l'ai toujours su que tu m'aimais. Tu m'as toujours suivi. Mais arrête de te condamner. Voyez-vous, une chose qui empêche les gens de recevoir, c'est qu'ils se condamnent. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire ça de même. Puis, oh, gars, qu'est-ce que j'ai fait? Puis, t'as-tu vu à cause de qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là, il y a ci, puis celui-là, il y a ça. Puis, écoutez, on peut pas. Comme j'ai déjà dit, j'en reparle à l'occasion, mais Martine, quand elle allait à l'école, puis on était sa base militaire, puis mon mari était parti pour 6 mois. Puis c'était difficile parce que je croyais qu'il ne partirait pas, puis il avait parti pareil, puis toutes ces choses-là. Et puis, c'était un temps difficile. Ça faisait déjà 3-4 mois qu'il était parti. Tu es toute seule avec tes enfants, tu es loin de ta famille, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, puis toutes ces choses-là. Mais je sais maintenant que Satan voulait voler la foi qui était à l'intérieur de moi. Mais Martine, quand elle allait à l'école, elle revenait, puis elle disait, « Maman, il y a un petit gars qui n'arrête pas de fesser sous moi. » À toutes les fois, puis il me fait mal, puis il me fesse. Puis le lendemain, la même chose, puis le lendemain, la même chose. Puis une fois, il l'avait fessé vraiment d'un endroit qui faisait mal pour une femme. Alors, elle est arrivée chez nous en pleurant, puis elle dit, « Ça fait tellement mal, même. » Fait que là, j'ai dit, « Enough is enough. » Puis au lieu de faire ce que j'avais l'habitude de faire, juste prier, puis croire que Dieu va éloigner cet enfant-là, je suis allée cogner à la porte. Puis j'ai parlé au papa du monsieur. J'ai dit, là, mon mari est parti, ça fait longtemps, je suis seule avec mes enfants. Puis là, ton gars, il n'arrête pas de fesser ma fille. Quand il s'en vient de l'école, puis je suis tannée de cela. Pouvez-vous faire quelque chose, monsieur? Et puis, je suis revenue chez nous. 2 semaines après, ils ont su que le petit gars, apparemment, il avait pris le fusil de son père, puis il voulait juste le nettoyer, et puis la balle a parti, puis il est décédé. J'ai compris quelque chose cette journée-là. La raison qu'il fessait sous Martine, c'est parce qu'il se faisait fesser dessus chez eux. Le petit gars s'est suicidé. Je vois-tu passer ma vie à me condamner à cause de ça? Pensez-vous qu'on n'a pas fait des choses qu'on regrette? Oui, c'est votre pasteur qui parle aujourd'hui. Pensez-vous qu'on n'a pas fait des choses? On est des humains, puis on est un esprit qui vit dans un corps, puis on a une intelligence, mais des fois, le corps, on vient épuiser, on a peur, on est tanné, on est fatigué, il y a toutes sortes de choses qui se lèvent, puis on fait des choses. J'ai toujours espéré dans mon cœur que le petit gars, il ait crié à Dieu avant de se tirer, puis qu'il ait dit, « Seigneur, toi au moins, tu vas faire de quoi pour moi ou quelque chose. » J'ai toujours espéré, malgré mon innocence dans ce cas-là. Mais on ne peut pas passer notre vie à se condamner. On ne peut pas passer notre vie à se condamner. Une des choses qui empêche les gens de recevoir de Dieu, c'est le péché, des fois, qu'on peut avoir fait et qui continue de nous condamner continuellement. La parole de Dieu dit dans Romains 8, 1, « Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On va se pardonner ce matin, OK? Pardonnons-nous ce matin, puis recevons de Dieu. Amen. On va se lever debout. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, si vous êtes venu ici ce matin parce que vous voulez recevoir la guérison, nous y croyons parce que la parole de Dieu dit, pas parce que nous autres, qu'est-ce qu'on a pensé, parce que la parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, nous qui croyons. Vous imposerez les mains aux malades, puis les malades seront guéris. Ça veut dire que le processus de guérison commence au moment où les mains sont imposées. Parce qu'on a quelque chose de spécial dans les mains? Non. Parce que c'est la façon que Dieu veut qu'on fasse et on le fait à sa façon à lui. Il dit imposer les mains. Dieu veut un point de contact. Puis moi, je crois fermement que la main de Dieu est là, c'est lui qui fait la guérison. Amen. Et ça, on y croit. Et au moment où les mains sont imposées, on croit que le processus de guérison commence. Même un jour, Jésus a prié une fois pour une personne qui est aveugle. Puis il dit, est-ce que vous voyez quelque chose? Ben, il dit, je vois les hommes comme des arbres. Jésus, il a prié à nouveau. Amen. Si tu en as reçu une dose, il peut en mettre une autre dose. Amen. Alors, si vous avez besoin de recevoir quelque chose de Dieu ce matin, c'est le moment. Moi, je crois fermement que Dieu va déposer la guérison. Alors, la guérison va commencer à l'intérieur de vous. Pareil comme quand c'est l'ennemi qui vient causer de la maladie, il commence des fois avec des symptômes, puis il empire les choses, bien, Dieu peut commencer avec la guérison, puis l'amener complètement en manifestation aussi. C'est ce que nous croyons. Mais avant, on va prier, puis on va se décharger sur Dieu de toutes les choses qu'on pourrait avoir faites de pas correctes, et on va accepter qu'il n'y a pas de condamnation en Dieu. Amen. On va se pardonner ce matin. Amen. Alors, Père éternel, je crois dans mon cœur qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, Seigneur Jésus, à cause de toi, à cause de tout ce que tu as fait, comment tu as porté mes problèmes, mes péchés, mes maladies sur la croix, je peux aujourd'hui venir devant Dieu avec assurance, sachant que je suis sauvé et que je n'ai plus aucune condamnation. Amen. Alors arrêtons de nous condamner. Alors, ce matin, vous avez besoin de guérison. Avancez en avant. Je crois que Dieu va déposer quelque chose à l'intérieur de vous. Amen.